Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos. Il est 22h. Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Je reçois des amis à la maison, on sera une petite dizaine apéro-dînatoire. Je ne sais pas trop ce qui peut être fait ou pas fait par rapport à ça.
Des contrôles déjà annoncés comme massifs pour le réveillon demain soir. Alors que peut-on faire ou non? Quels risques et quelles sanctions sanitaires comme sécuritaires? Tour d'horizon dans un instant si vous êtes en plein préparatif ou en plein questionnement. Pas de réouverture attendue des salles de spectacle et de cinéma. En revanche, le 7 janvier, c'est ce qu'indique ce soir le gouvernement. Les professionnels du secteur, fatalistes, espèrent quand même rouvrir avant février. Dans ce journal également, l'exécutif qui persiste sur sa stratégie vaccinale que de nombreux élus trouvent trop lente. Les explications démographiques et météorologiques du rebond de l'épidémie, surtout dans l'Est. La colère à Saint-Nazaire des syndicats des chantiers navals devant le nouveau délai dans le processus de rachat accordé à Fincantieri. On se penchera aussi sur le contenu de l'accord trouvé entre la Chine et l'Europe sur les investissements. Et puis sur cette première agitée pour Raymond Domenech comme entraîneur du FC Nantes. Premier entraînement perturbé, non sans humour, par des supporters nantais lassés. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag, le patron de Mauboussin, Alain Neymar, sera avec nous. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo pour demain avec Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous êtes donc peut-être en train de préparer votre soirée du nouvel an pour demain soir avec un peu de culpabilité ou des questions sincères. Elles sont nombreuses, il faut le dire, à 24 heures des festivités.
J'ai pas très bien compris comment c'est la règle avec les enfants, à quel âge ça s'arrêtait et j'ai pas compris.
Je vais chez des potes et je me demande du coup ce que ça fait si je sors dans la nuit après mon réveillon ou le matin très tôt. Voilà, je me demande ce que ça fait.
Deux questions parmi bien d'autres recueillies à Paris à votre micro, Nicolas Feldman. Alors en effet, d'abord, à combien est-ce qu'on a le droit de se réunir et y a-t-il des dérogations au couvre-feu prévu demain soir ?
Eh bien, même pour cette nuit du Nouvel An, le couvre-feu s'applique entre 20h et 6h du matin. C'est donc la même règle qu'aujourd'hui, vous vous exposez à une amende de 135 € si vous circulez sans autorisation. L'autre question, combien je peux inviter d'amis à la maison demain soir? Eh bien là, la règle est claire, c'est 6 personnes maximum, sans compter les enfants. Des interrogations, il y en a beaucoup. Écoutez par exemple celle d'Élodie.
Je reçois des amis à la maison, on sera une petite dizaine apéro-dînatoire. Et du coup, ma question, c'était si les policiers viennent, par rapport au fait qu'on est plus que 6, je ne sais pas trop ce qui peut être fait ou pas fait par rapport à ça.
Alors, pour répondre à Élodie, les policiers ne peuvent pas entrer chez vous sans autorisation, c'est la loi. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous êtes à l'abri. Si des voisins, par exemple, signalent un tapage, là, c'est 68 € d'amende. Et si vous êtes plus de 6 adultes, eh bien là, les forces de l'ordre peuvent constater l'infraction sur le pas de la porte. Et c'est une amende de 135 € pour chaque participant.
Et puis une autre question très importante, Nicolas, que nous pose Iris, 16 ans.
Est-ce qu'on a le droit de s'embrasser au Nouvel An à minuit ?
Alors là, au risque de vous décevoir et de décevoir Iris, c'est malheureusement non. Les spécialistes sont clairs, même demain soir, port du masque et distanciation doivent être dans tous les esprits. Les autorités sanitaires recommandent aussi un plan de table espacé et d'aérer toutes les heures. Enfin, une dernière question sur cette nuit, elle vient de Grégoire, 20 ans.
Est-ce qu'il va y avoir un feu d'artifice ?
Alors là, non, que vous soyez à Paris, à Marseille, Lille ou Toulouse, aucune de ces villes n'a prévu de feu d'artifice. Maigre consolation, vous pourrez en revanche admirer à la télé un concert de Jean-Michel Jarre, un concert dans le décor virtuel de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Voilà, on sait tout. Merci beaucoup Nicolas Feldman. Et le secteur de la culture justement, pas vraiment rassuré ce soir par les déclarations de Gabriel Attal. Il est très peu probable que les salles de spectacle et de cinéma puissent rouvrir le 7 janvier comme espéré, indique le porte-parole du gouvernement. Réaction fataliste, mais pas dénuée d'espoir en réponse du patron de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag.
Bien évidemment, nous sommes tristes que les cinémas soient fermés, que les lieux de culture soient fermés. Nous devions ouvrir, vous vous en souvenez, au 15 décembre, et puis ça n'a pas été possible. Nous, désormais, nous nous retournons vers l'avenir, nous nous tournons vers la fin janvier pour espérer, dès que possible, que nous puissions rouvrir les cinémas, les théâtres et l'ensemble des lieux qui sont essentiels à la vie des Français. On aura été fermé aussi longtemps cet hiver qu'au printemps dernier. Donc rendez-vous compte, ça fait en tout presque 6 mois de fermeture, une demi-année de fermeture. C'est des périodes très longues, très douloureuses pour les entreprises, très douloureuses pour les responsables des cinémas, les exploitants de salles de cinéma. Et il nous paraît toujours, aujourd'hui, nécessaire de rouvrir nos lieux pour qu'on puisse accompagner les Français dans cette période qui est quand même très difficile pour chacun.
Le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag, dans Europe Soir tout à l'heure avec Isabelle Millet, alors qu'on a appris aujourd'hui que les salles obscures avaient perdu 70% de leurs spectateurs avec les fermetures cette année et plus d'1 milliard d'euros de recettes. Concernant la stratégie vaccinale, les critiques sur la lenteur française sont dérisoires et relèvent d'une fausse querelle. La réponse ce soir du monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer sur LCI, qui demande d'attendre quelques semaines pour juger et promet que notre rythme de vaccination sera in fine comparable à celui de nos voisins. Aurélie Herbemont, aujourd'hui, 300 maires ont demandé dans une tribune à pouvoir se faire vacciner pour donner l'exemple. Et certains demandent même avec insistance pourquoi le président, au plus haut sommet de l'État, ne le fait pas lui-même.
Eh bien parce que l'exécutif a voulu éviter deux écueils. D'abord, se faire vacciner en premier quand il n'y a pas assez de doses pour tout le monde et qu'on n'est pas dans les publics prioritaires, ça peut être à double tranchant. Le symbole est là, mais ça peut aussi déclencher des critiques sur le deux poids, deux mesures. Souvenez-vous, au printemps, quand les tests étaient une denrée rare, les ministres qui se faisaient dépister étaient accusés sur les réseaux sociaux de bénéficier de passe-droit. Et puis deuxième raison, se faire vacciner devant les caméras n'est pas un moyen suffisant pour rassurer, car les plus réfractaires, voire complotistes, pourraient très bien dire « ce n'est pas le vrai vaccin ». Bref, aucune stratégie n'est garantie 100% succès.
Et on touche là au vrai sujet de la défiance sur ce vaccin. Finalement, Aurélie, ces élus locaux, on a aussi l'impression qu'ils veulent surtout faire leur possible pour lutter contre ce phénomène.
Ah oui, un phénomène de réticence au vaccin très fort. La France est quasiment championne du monde en la matière. 40% des Français souhaitent se faire vacciner contre le Covid. C'est 80% chez nos voisins britanniques. Ça monte même à 98% au Vietnam, vous avez bien entendu, 98%. C'est d'ailleurs pour gérer ce scepticisme français que le gouvernement a choisi un rythme de vaccination spectaculairement lent par rapport aux autres pays, très progressif, avec recueil des consentements au préalable. Mais cette lenteur suscite elle-même de la défiance. Certains considérant qu'on prend les premiers vaccinés pour des cobayes et qu'il y a peut-être quelque chose à cacher. Mais surtout, de plus en plus d'élus plaident pour une accélération du processus. Le gouvernement, lui, assume sa ligne, marathon plutôt que sprint, et est assez fataliste comme ce conseiller qui lâche. Quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. On dénombre pour ce mercredi plus de 26 000 nouveaux cas dans l'Hexagone. Les hospitalisations et les entrées en réanimation baissent légèrement. Mais c'est toujours dans les régions de l'Est que la situation est la plus tendue. C'est aussi là, vous le savez, qu'une vingtaine de départements devraient avancer le couvre-feu à 18h à partir de samedi. Victor Dolande, quelles sont les explications à cette France littéralement coupée en deux au niveau sanitaire ?
Alors d'abord, on le sait, le Covid est une maladie des grandes villes et il y a une plus forte densité de population à l'est du pays qu'à l'ouest. Autre explication, les régions les plus touchées sont des zones frontalières avec des pays plus durement frappés par l'épidémie actuellement. On pense à l'Allemagne, proche du Grand Est, à l'Italie qui partage sa frontière avec, entre autres, les Alpes-Maritimes. Il y a plus d'échanges avec ces régions et donc forcément plus de contamination. Enfin, dernière explication, le climat, comme l'explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Des températures qui actuellement sont extrêmement basses et qui sont propices à une transmission de l'agent infectieux. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le virus peut rester un petit peu plus longtemps, ou du moins les gouttelettes en suspension, et que ça favorise cette situation de contamination, ce d'autant que lorsqu'il fait froid, on est plus souvent confiné à l'intérieur qu'à l'extérieur, et donc dans des conditions radicalement différentes de cet été.
Dans les régions les plus touchées, les déprogrammations d'opérations non urgentes ont repris il y a déjà plusieurs jours pour parler des capacités. 63% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le Grand Est et 90% en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, les épidémiologistes ont peur de retrouver le même schéma qu'au printemps dernier, d'abord plus nombreuses à l'Est. Les contaminations s'étaient progressivement étendues à l'Ouest. Avec les nombreux mouvements pendant la période de fête, on pourrait observer le même phénomène dans quelques semaines.
Une précision signée Victor Dolande. Chez nos voisins, justement, l'Angleterre reconfine totalement les trois quarts de sa population à partir de demain. Les écoles britanniques resteront fermées pour les deux premières semaines de janvier au vu de la flambée des contaminations. Une éclaircie, le vaccin AstraZeneca vient d'être autorisé outre-Manche. Quant à l'Allemagne, eh bien l'un des bons élèves européens connaît à son tour un record de contamination. Plus d'un millier de nouveaux cas outre-Rhin ces dernières 24 heures.
Europe 1. Théo Manuel.
Romain Val.
Il est 22h10 sur Europe 1. Au volet judiciaire à présent, c'est une affaire devenue emblématique des violences faites aux enfants et de toutes les questions autour de la non-assistance ou du non-signalement. Le voisin du petit Tony, garçon de 3 ans, battu à mort par son beau-père il y a 4 ans à Reims, ce voisin a été relaxé en appel cet après-midi. Marion Dubreuil, il était poursuivi justement pour ne pas avoir prévenu la police.
Oui, pourtant ce voisin qui habitait juste en dessous du petit garçon a été à minima témoin auditif de ces mauvais traitements qui ont duré un mois. Il le reconnaît lui-même, mais la cour d'appel de Reims a estimé qu'à défaut d'avoir alerté les services de police, le trentenaire a bien prévenu son bailleur, sans savoir exactement ce qu'il se passait dans l'appartement du dessus, sans deviner, explique son avocate, le calvaire du petit garçon. Au lendemain de la mort de Tony en 2016, le procureur de la République de Reims avait estimé que le voisinage aurait pu sauver le petit garçon en alertant la police. L'enquête avait permis d'établir d'ailleurs que plusieurs personnes avaient eu connaissance de violences, mais ce voisin avait été le seul à être traduit devant la justice. Et les associations de protection de l'enfance se sont d'ailleurs opposées sur l'opportunité de ce procès, symbolique pour certaines avec pour objectif de rappeler la loi, contre-productif pour d'autres qui craignent que les témoins se taisent à l'avenir par peur des poursuites.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Enfin, le ramassage des ordures peut reprendre ce soir à Marseille après presque 2 semaines de grève. Un accord a été conclu entre syndicats et direction. Il prévoit notamment la mise en congé pour 2 semaines de 2 directeurs de site accusés de harcèlement, ainsi qu'un audit sur le management et l'intégration d'un salarié intérimaire. Les syndicats des chantiers navals de Saint-Nazaire, en revanche, ne décolèrent pas. Ils dénoncent le flou dans lequel les maintient le nouveau délai accordé par le gouvernement au racheteur italien Fincantieri. Pour la 5e fois en 3 ans, il obtient 1 mois supplémentaire pour apporter à des éléments que lui réclame la Commission européenne, ce qui exaspère encore un peu plus Nathalie Durand-Rimborgne, secrétaire de la section Force ouvrière.
C'est un feuilleton qui ne va jamais se finir à ce rythme-là. Ça va faire 3 ans que ça dure. Il est temps, et pour les salariés, et pour les sous-traitants, et pour nos clients, que cette histoire prenne fin définitivement, une bonne fois pour toutes. Rallonger systématiquement tous les 2 mois, rallonger d'1 mois, rallonger de 2 mois, ça n'est juste plus supportable pour qui que ce soit dans cette affaire.
Votre vœu à vous ?
Pour Force ouvrière, on ne veut pas de Fincantieri à la barre de cette entreprise. Parce que nous sommes en désaccord avec le contrat qu'ils ont signé de transfert de technologie avec le chantier chinois CSSC. Nous sommes dans la crainte des postes que nous avons en doublon et nous avons peur de nous retrouver à ne faire que du paquebot. Et ça, nous savons que ça n'est plus possible pour un chantier comme le nôtre. Donc, pour toutes ces raisons, nous revendiquons le maintien de l'État comme actionnaire majoritaire avec l'actionnariat tel qu'il est aujourd'hui.
Vous dites on a tout à perdre avec Fincantieri ?
Nous sommes là face à un concurrent. Nous voyons comment ça se passe quand il y a un rapprochement entre 2 concurrents. Généralement, il y en a toujours un qui écrase l'autre complètement et qui l'avale. Nous sommes une entreprise saine, avec des comptes à l'équilibre. Ce feuilleton n'a que trop duré. Il est temps d'y mettre un terme.
Nathalie Durand-Rimborgne, secrétaire de la section Force ouvrière des chantiers de l'Atlantique. Elle répondait pour Europe 1 à notre correspondant François Coulomb. Entre l'Union européenne et la Chine, c'est un aboutissement. Aujourd'hui, après 7 ans de pourparlers, un accord de principe a été trouvé sur la question des investissements. C'est un dossier clé qui mêle à la fois l'accès au marché unique, les transferts de technologies, la lutte contre les contrefaçons. Olivier Samar, les 27 estiment avoir obtenu un texte qui rééquilibre les relations. Expliquez-nous.
Eh bien, si on en juge par les termes du communiqué publié cet après-midi par Bruxelles, ce traité va changer beaucoup de choses par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, le marché unique européen est largement ouvert aux entreprises chinoises, mais la réciproque existe beaucoup moins. Des secteurs entiers de l'économie chinoise sont totalement fermés aux investisseurs étrangers et le pouvoir à Pékin est régulièrement critiqué pour le soutien qu'il apporte via d'importantes subventions publiques à plusieurs grandes firmes chinoises, ce qui fausse les lois du marché. L'accord, dit le communiqué de Bruxelles, contribuera à un rééquilibrage des relations économiques entre les 2 continents. Il va améliorer considérablement l'égalité des conditions de marché en garantissant le respect de la protection des brevets, en interdisant les transferts de technologies forcés et en renforçant la transparence des subventions aux entreprises publiques chinoises. Voilà donc pour les grands principes, mais la finalisation de l'accord va prendre encore de longs mois avec, parmi les points sensibles à régler, la question du travail forcé. On pense en particulier à la communauté musulmane ouïghour, dont plus 1 million de membres sont internés dans des camps de rééducation dans l'ouest du pays. L'accord annoncé aujourd'hui précise que la Chine s'engage à œuvrer à la ratification des conventions internationales interdisant le travail forcé. S'engage à œuvrer.
On note en effet que ça relève encore de la promesse. Merci Olivier Samin. Goodbye les Britanniques. La reine Elisabeth doit promulguer cette nuit l'accord sur le Brexit après le vote ultime de la Chambre des Lords dans la soirée. Les députés britanniques l'ont déjà approuvé à une écrasante majorité cet après-midi. Boris Johnson l'a signé dans la foulée. Le texte doit entrer en vigueur provisoirement après demain, le 1er janvier. En France, un homme placé en garde à vue dans les Landes ce soir pour tentative d'homicide. Il a tiré sur un gendarme après lui avoir dérobé son arme de service. Le militaire est touché à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger. Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, avait refusé de s'arrêter à un contrôle routier. On termine avec les sports et pour sa première séance en tant qu'entraîneur de club depuis 27 ans, on ne peut pas dire que Raymond Domenech ait eu droit à un accueil calme et serein du côté du FC Nantes aujourd'hui. Les supporters l'ont accueilli avec sono et bande-son et ce qui est sûr, c'est qu'il s'en souviendra, Julien Froment.
Oui, une séance ouverte en théorie seulement à la presse, mais des ultras de la Brigade Loire se sont invités à cette grande première. Ils ont placé un haut-parleur géant sur le grillage du terrain d'entraînement et ils ont diffusé cette nouvelle version de l'entrée des gladiateurs, un air que vous connaissez tous.
Mesdames et messieurs, bienvenue au Kita Circus. Le Kita Circus,
c'est ce qui est devenu le FC Nantes selon les supporters nantais, un club sans âme dirigé par Valdemar Kita, 17 entraîneurs en 13 ans, l'ADN du club liquidé et des brouilles permanentes avec le public. Frédéric, au micro de notre correspondant Loïc Folio, estime qu'avec l'arrivée de Raymond Domenech, une nouvelle étape a été franchie.
Du point de vue du football club de Kita Circus, c'est l'apothéose. Du point de vue du FC Nantes, en revanche, c'est bien triste. Nous, on a connu quand même le jeu à la nantaise. Raymond, c'est l'antithèse du jeu à la nantaise, mais c'est par achèvement de l'œuvre encore une fois de Valdemar Kita, qui depuis qu'il est arrivé n'a qu'une envie, c'est faire oublier le glorieux passé pour qu'on garde son empreinte et sa seule empreinte.
Valdemar Kita, entouré de gardes du corps, a fait une courte apparition sur le terrain d'entraînement pour saluer Raymond Domenech. Quant aux joueurs, ils n'ont pas apprécié la bande-son. Le milieu de terrain Abdoulaye Touré a dû être retenu par ses coéquipiers. Prochain rendez-vous demain 14h30 sous le chapiteau, ou plutôt dans la salle de presse, avec la première intervention face aux médias de Raymond Domenech.
Julien Froment et puis Yannick Bestaven, toujours en tête du Vendée Globe, 106 000 nautiques devant Charlie Dalin. Il espère profiter d'une dépression qui s'annonce au Cap Horn pour creuser encore l'écart. 22h17, la météo. Avec vous Anissa Haddadi et avec 4 départements du sud-est toujours touchés par les inondations, vigilance orange pour les crues maintenues dans les Landes, le Gers, le Lot et Garonne, ainsi que le Tarn et Garonne. Pour le reste du pays, ce sera demain un dernier jour de l'année froid et enneigé.
Avec en effet demain, Théo, une nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. Une perturbation qui apporte sur toute la façade est du pays, sur le Massif central et sur les Pyrénées, à nouveau de la neige avec dans les Vosges et en Auvergne, attention, un risque d'avalanche ou en tout cas un risque de coulée de neige, soyez prudents. Prudence également demain matin dans la vallée du Rhône où le risque de verglas sera important. Et puis de la Gironde jusqu'aux Ardennes en passant par l'Auvergne, eh bien les averses seront fréquentes. Demain, vous l'avez compris, c'est un dernier jour de l'année placé sous le signe de la pluie et de la neige dans le nord-ouest. Tout de même, une bonne nouvelle, en Bretagne, en Normandie et sur les Pays de la Loire, nous aurons demain, surtout l'après-midi, quelques éclaircies qui réussiront à se frayer un petit chemin au milieu des averses. Alors les températures, nous avons toujours des gelées matinales à l'est avec moins 5 à Gap, moins 4 à Manosque, moins 3 à Grenoble, moins 2 pour Valence, moins 1 à Lyon, 0 à Metz, 2 degrés pour Paris, 4 à Brest et 6 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire avec 1 à 12 degrés, 5 à Paris, 7 à Nantes, 10 à Bordeaux et jusqu'à 12 degrés pour Marseille.
Prévision signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Vous ne bougez pas, dans un instant on fait le point sur les places financières avant l'interview écho d'Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag, Alain Aymar, PDG du joaillier Mauboussin. A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Et à 22h19, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street tutoie encore une fois les sommets pour l'avant-dernière séance de l'année.
Et c'est un nouveau record pour le Dow Jones qui gagne 0,24%, 30 409 points. Pas de record pour le Nasdaq, mais on est tout près à 12 870 points. Les marchés sont optimistes, ils croient à une sortie de crise en 2021 grâce au plan de relance américain et à la campagne de vaccination contre le coronavirus. Alors cet optimisme pénalise le dollar qui est au plus bas depuis 2 ans et demi. L'euro en profite et avance de 0,3% à 1,22$. taux de 87. Côté valeur, le titre du laboratoire AstraZeneca monte de 0,6%. Le Royaume-Uni a donné le feu vert à l'utilisation de son vaccin développé avec l'université d'Oxford. Et puis Tiffany est stable. Les actionnaires du joaillier américain ont accepté la proposition de rachat révisé du français LVMH. Une offre à près de 12,9 milliards d'euros et un feu vert après un très long bras de fer entre les deux groupes.
Un mariage houleux, en effet. À Paris, le CAC 40 a terminé en petite baisse, ambiance très calme pour l'avant-dernière séance de l'année.
Oui, le CAC 40 est en baisse, mais il reste sur ses plus hauts niveaux depuis 10 mois. Le CAC 40 perd 0,22%, 5599 points. Séance compliquée pour le secteur aéronautique. Safran et Thales cèdent plus de 1,1%. Airbus perd 2%. Le titre Airbus qui conclut une année très difficile puisqu'il a chuté de 30% depuis le 1er janvier. Et puis Société Générale cède 0,6%. La banque signe la plus forte baisse du CAC 40 cette année avec un plongeon de 45% malgré son rebond des derniers mois.
On termine avec le secteur du luxe, Claire Lemaître, qui tire une nouvelle fois son épingle du jeu.
Oui, encore une très belle séance pour Kering qui monte de 1,8%. Et puis Hermès a touché un record en séance, tout comme LVMH après le feu vert au rachat de l'américain Tiffany. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé dans le rouge. Londres perd 0,7%. Francfort moins 0,3% pour sa dernière séance de l'année. Les marchés sont fermés demain en Allemagne. Moins 0,1% pour Milan, moins 0,2% pour Madrid. Moins 0,2% aussi pour le CAC 40 qui clôture ce soir à 5599 points.
Et le CAC qui fermera à 14h demain, demi-séance pour le réveillon. Merci pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de Boursier.com. À 22h, bientôt passé de 22 minutes sur Europe 1, l'heure de l'interview écho. Avec vous, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Et avec vous, ce soir, le patron d'une entreprise qui brille dans le monde de la joaillerie. J'ai nommé Mauboussin. C'est à vous.
Bonjour Alain Aymard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Mauboussin. Mauboussin, c'est 76 boutiques en France, 300 salariés. Votre marque existe depuis 1827. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mauboussin, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous êtes un des grands noms de la joaillerie en France. Mauboussin, c'est une marque de joaillerie haut de gamme. Là, nous sommes à la fin d'une année très spéciale. Comment ça va chez Mauboussin ?
Je dirais que globalement, ça va bien. Ça va bien malgré une année particulière. Une année où on a été obligé de s'adapter, de se mettre dans un nouvel air du temps et de maîtriser en fait la question de la distance. Puisqu'en fait, pour une marque comme Mauboussin qui avait choisi depuis une vingtaine d'années la proximité, c'est clair que du jour au lendemain, la nouvelle situation, il fallait pouvoir s'adapter. On s'est adapté lentement au début, au premier confinement, parce qu'on a été un peu surpris. Et puis en fait, au deuxième confinement, on s'est adapté peut-être plus totalement.
Quand vous dites « on s'est transformé », c'est-à-dire, c'est quoi le Mauboussin d'aujourd'hui par rapport à début du mois de mars 2020, ce qui paraît être un siècle ?
En fait, on s'est d'abord transformé par le service au client. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui qu'on livre à domicile et pas simplement pour les achats liés à Internet. Le site marchand, aujourd'hui, a quasiment doublé en un an sa performance. On s'est transformé par le contact client au téléphone. Tous nos magasins ont en fait mis en place une procédure de call and collect, donc d'appel client et de possibilité pour le client de venir chercher sa commande ou de se faire livrer sa commande.
Le mois de décembre, c'est un mois stratégique. Il représente entre 20 et 22% de votre chiffre d'affaires de l'année. Il s'est passé comment ? Il a bien démarré ?
Oui, il a forcément bien démarré. Puisqu'en fait, on avait un effet de rattrapage. Donc globalement, le mois de décembre nous permet peut-être de rattraper ce qu'on a perdu sur le mois de novembre.
Vous êtes assez atypique dans ce secteur de la joaillerie. Vous acceptez de mettre les prix, de faire des publicités avec des prix et de faire des promotions. Vous avez participé au Black Friday, par exemple, au tout début du mois. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que vous avez senti une appétence de vos clients et clientes pour...
Oui, mais ça, je pense comme tout le monde, comme toutes les marques. Et probablement...
Ah, les grandes marques de joaillerie,
vous n'êtes pas comme toutes les marques, vous ?
Le problème, ce n'est pas la promotion. C'est le fait de choisir de communiquer dessus ou pas. Moi, j'ai pris un parti pris depuis 20 ans, c'est la transparence. La transparence, c'est de dire ce que je fais, de l'assumer, de considérer d'ailleurs que ce n'est pas le fait de l'assumer, c'est que c'est normal. C'est-à-dire qu'il est naturel que les marques fassent preuve de générosité en offrant, par exemple à l'occasion de Noël ou de Nouvel An, un cadeau à leurs clients. Mais est-ce que c'est aussi exceptionnel que ça ? On est une marque qui a pris un virage à l'époque très important dans un métier qui crée peu souvent. On a pris un rythme de création extrêmement rapide, puisqu'en fait, on lance des nouveaux produits toutes les 6 semaines.
Mais justement, Mobusson, on n'arrive pas à vous situer, parce que vous êtes très haut de gamme, premium, luxe, et en même temps, vous n'appliquez pas les mêmes codes que ceux que
et
nous connaissons tous.
Et vous avez des prix très entrée de gamme pour une certaine collection.
En fait, je pense que j'applique globalement les mêmes, finalement, les mêmes arguments, à savoir que l'argument principal, c'est la création. Vous n'êtes jamais performant parce que vous êtes, entre guillemets, bon marché. Vous êtes performant parce que vous êtes créatif et que cette création rencontre l'émotion de la cliente ou du client qui a envie de vous acquérir.
Qui est finalement la cliente Mobusson ?
La cliente Mobusson, elle est...
Ou le client, parce que c'est bah beaucoup d'hommes.
On va traiter les deux. La cliente Mobusson, je dirais qu'elle est transgénérationnelle. C'est sûr que le cœur de cible de la marque, c'est plutôt une femme entre 25 et 49 ans, si on voulait raisonner marketeur. Mais la réalité est beaucoup plus large. On a des femmes plus âgées, on a des femmes beaucoup plus jeunes qui viennent acheter nos objets parce qu'elles se ressentent à l'aise avec nos créations, avec nos bijoux qui sont souvent minimalistes, qui sont aisément portables, aussi bien dans une vie sociale de travail que dans une vie sociale d'apparat.
Je rebondis sur ce que vous dites, Alain Aymard. À l'aise, les clientes Mobusson sont à l'aise. C'est vrai que ça peut être parfois compliqué de porter un bijou quand il a une certaine valeur, quand il y a certaines pierres dessus. Vous, votre objectif, c'est qu'on puisse porter les bijoux n'importe quand et à n'importe quel moment.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la définition du bijou pour moi, pour une femme, c'est d'être une deuxième peau. Un élément de sa carte d'identité. Et au fond, par conséquent, il faut que vous soyez à l'aise, quelle que soit la circonstance de votre vie dans laquelle vous le portez. Alors que le bijou, peut-être il y a 20 ans, quand je suis arrivé dans le métier, c'était plutôt un trophée. Et donc, on est peut-être un peu moins à l'aise avec un trophée qu'on peut l'être avec un objet identitaire.
Quand vous dites, au mois de décembre, on va peut-être récupérer une bonne partie de ce qu'on a perdu au mois de novembre, est-ce que vous avez senti, de la part de certains clients et clientes, tout simplement l'idée de se dire, on en a tellement marre qu'on va peut-être se faire le petit plaisir en plus qu'on ne se serait pas fait normalement si ça avait été une année normale, parce que juste, on a envie de se faire plaisir.
Pour moi, c'est évident que le problème principal de la crise qu'on vient de vivre depuis un an, c'est la perte du lien. Et ce lien social, à la fois avec votre famille, vos proches, vos amis, mais à l'intérieur de la famille, le fait de ne plus pouvoir, par exemple, embrasser vos petits-enfants, s'embrasser entre vous, avoir un grand dîner de famille. Quelque part, ça rend également cette liaison sociale, cette liaison familiale, plus riche, plus importante, plus stratégique, plus vitale. Et au fond, l'achat de bijoux en cette fin d'année, c'est un élément d'appropriation d'une preuve du lien social. Au-delà de l'adversité, je marque mon attachement à l'autre et je lui offre quelque chose pour marquer l'amour que je lui porte ou l'amitié que je lui porte.
Merci beaucoup Alain Aymard, vous êtes le PDG de Mobusson. Merci beaucoup à vous Elisabeth Assayag. On se retrouve demain pour une émission spéciale produit de fête, notamment autour du directeur général de Le Nôtre. Ce sera à 13h pour La France Bouge.
Et on a hâte de vous y retrouver. Merci beaucoup Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Rendez-vous demain 13h-14h pour La France Bouge sur Europe 1. À la une de vos quotidiens, demain matin, cette photo de Boris Johnson, valise à la main, paume gauche levée pour dire au revoir et ce mot « goodbye » qui barre la une du Figaro. Et oui, ça y est, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne ont officiellement ratifié toutes les deux l'accord qui scelle leur séparation. Le grand saut aura bien lieu au 1er janvier avec cette question soulevée par Philippe Gély dans son éditorial « Comment le Royaume-Uni parviendra-t-il à exister aux côtés de l'Union Européenne sans faire du dumping et sans casser les normes sociales ?» The End également à la une en pleine page de Libération qui choisit, elle, une photo de dos de la reine Elisabeth II et qui fait le point « Passeport, Erasmus, Immigration, Gibraltar, tout ce qui va changer avec ce Brexit à partir du 1er janvier ».
impôts, ce qui change pour les ménages en 2021. Ça, c'est à la une des Échos qui passe en détail les dispositions fiscales qui vont évoluer l'an prochain. Taxe d'habitation, malus auto, niche Pinel. Et qui fait le bilan, sur ce quinquennat, les ménages, nous disent les Échos, auront bénéficié d'une baisse d'impôts de 22 milliards d'euros. Un an sous le signe du Covid, Ouest-France regarde dans le rétroviseur, mais se projette aussi. Ce sera mieux demain, nous dit François-Xavier Lefranc dans son éditorial, qui écrit « Notre monde a des idées nouvelles et il a besoin d'écouter les anciens, de faire confiance à ces jeunes, d'entendre, de dire que c'était peut-être pire avant et qu'il ne tient qu'à nous que ce soit mieux demain. » L'espoir est permis, titre d'ailleurs La Croix, qui décrypte là aussi 8 raisons de croire au rebond économique à venir. La Croix qui se souvient aussi des belles choses qui sont arrivées au cours de l'année écoulée. Effectivement, il y en a eu. Enfin, vœu présidentiel, offrir aux Français une perspective, c'est ce que demande l'opinion à Emmanuel Macron, qui dira ses vœux aux Français demain à 20h. Vous pourrez évidemment les suivre sur Europe 1. Mais pour l'heure, il est 22h30 et vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo.
3921 pour vous appeler, on est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et puis nous on se retrouve bien évidemment à 23h pour le Flash.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.